Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est ministre de la Transition écologique et solidaire.
Bonjour à vous Elisabeth Borne.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Troisième journée de mobilisation hier, il y avait un peu plus de 600 000 personnes dans les rues de France selon la police. Vous retenez quoi ce matin? Que c'est beaucoup de monde, 600 000 personnes, ou que c'est moins que le 5 décembre?
Écoutez, moi je vais pas faire la météo de la mobilisation. Il y a eu effectivement une mobilisation hier, avec des gens qui portaient des revendications très différentes. Pour certains, le retrait de la réforme, et puis pour d'autres, des demandes d'amélioration sur un certain nombre de points. Je pense que ce qui est important maintenant, c'est que les négociations se tiennent cet après-midi, comme c'est prévu, pour répondre à ceux qui demandent des améliorations, puisque ce système, il peut toujours être amélioré dans le dialogue social.
On va y venir aux négociations, mais d'abord des questions très précises. D'abord, la CGT a revendiqué hier des coupures de courant volontaires qui ont touché des dizaines de milliers de foyers en Gironde, à Lyon, à Nantes, à Orléans, dans deux quartiers de Paris. La CGT explique que ces coupures s'inscrivent, je cite, dans la bagarre contre votre réforme des retraites, qu'elles sont un avertissement avant des coupures de courant plus massives. Vous répondez quoi ce matin ?
Que c'est grave, que ce qui s'est passé est grave. Vous voyez, quand on a des dizaines de milliers de foyers qui ont été privés d'électricité, 50 000 en Gironde, 40 000 à Lyon, et puis à Lyon, 5 cliniques, une station de métro, une caserne de pompiers. Donc moi, je condamne évidemment très fermement. J'ai demandé aux dirigeants de RTE et d'Enedis de déposer plainte systématiquement. Et puis moi, je demande aussi à Philippe Martinez de clarifier sa position sur ce sujet. Je l'entends dire qu'on coupe les entreprises du CAC 40, les préfectures, les centres commerciaux. C'est déjà assez discutable. Mais là, je le redis, des cliniques, des stations de métro, des casernes de pompiers, et puis des milliers de Français, comme vous et moi, qui se retrouvent privés d'électricité. Donc je pense qu'on est vraiment très loin des modes d'action normaux, de ce qu'on peut attendre d'un grand service public. Alors, je confonds pas tout, c'est quelques... Heureusement, c'est une toute petite minorité, et je confonds pas avec tous les agents qui, effectivement, sont au service du public, comme on peut l'attendre d'un grand service public qui est EDF.
Alors, je sais pas si vous êtes au courant, on vient de l'apprendre, là. Des cheminots ont installé plusieurs barrages dans la région de Nice. En ce moment, des camions sont bloqués, peuvent pas faire leur livraison. Des bus sont bloqués également dans la région de Nice contre la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'on a... dans notre pays, un droit de grève garanti par la Constitution, un droit de manifester, mais qu'il n'y a pas de droit au blocage, aux menaces, aux coupures sauvages. Voilà, donc je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités et je condamne très fermement ce type d'action.
Madame la ministre, les fêtes de Noël approchent, beaucoup de Français veulent fêter cela en famille, mais auront-ils un train? Hier, votre secrétaire d'État, Jean-Baptiste Djebbari, a promis, je cite, que l'ensemble des Français qui ont un billet auront un train garanti ce week-end. A-t-il dit une bêtise?
C'est bien ce que la SNCF veut faire. La SNCF s'est vraiment démenée pour permettre à chacun de partir pour les vacances de Noël. Il y a 850 000 billets qui avaient été vendus. Il y aura 850 000 places. Pour certains, ça sera simple. C'est leur train qui circule. Pour d'autres, ils seront replacés automatiquement sur un autre train et d'autres auront à échanger leurs billets. Mais vraiment, la SNCF est sur le pont pour permettre que tous ceux qui ont pris un billet puissent circuler.
Alors, c'est pas exactement les chiffres que j'ai, mais démentez-moi. La SNCF promet que 2/3 des passagers auront un train, soit qu'il est maintenu, soit qu'ils peuvent échanger leurs billets qui seront remboursés. C'est bien ça, ils seront bien remboursés. Il n'y a pas de frais en plus.
Ah non, il n'y a pas de frais, ça je peux vous le confirmer.
Il y a parfois un peu de frais, mais...
Non, je pense qu'il n'y aura pas de frais du tout.
Je l'ai fait ce matin, il y a un peu de frais.
Bon, voilà. On va à la SNCF.
Donc ça c'est un. Deuxièmement, il resterait 15% des voyageurs qui n'ont rien, qui n'auront pas de train, qui n'ont pas de solution alternative. Est-ce que vous confirmez ce chiffre-là? Et 15%, ça veut dire un peu plus de 100 000 voyageurs qui... si j'ose dire, permettez-moi la crudité, sont à poil. Là,
non, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, les équipes de la SNCF sont sur le pont, et moi je voudrais leur rendre hommage. On parle beaucoup des grévistes, il y a tous ceux qui sont effectivement très mobilisés pour apporter des réponses. L'objectif, c'est bien que tous ceux qui avaient pris un billet puissent avoir une solution. Je ne vous dis pas qu'elle est idéale, évidemment si 100% des TGV circulaient, ça serait plus simple, mais les équipes de la SNCF sont sur le pont pour apporter une réponse à chacun.
Donc tout le monde ira, tous les gens qui ont acheté un billet iront en famille fêter Noël, quoi.
Alors, ils iront soit simplement si leur train est maintenu ou s'ils sont automatiquement replacés sur un autre train, soit de façon moins simple. Mais la SNCF, vraiment, les équipes sont sur le pont pour répondre à tous ceux qui avaient acheté un billet.
Alors, les négociations, elles reprennent aujourd'hui à Matignon. Le Premier ministre recevra chaque leader syndical seul, puis tous ensemble demain. Laurent Berger maintient sa position ce matin. Il faut retirer l'âge pivot, vous dit-il. C'est son préalable pour discuter. Vous lui répondez quoi? Que c'est pas recevable que l'âge pivot à 64 ans restera dans le texte?
Je pense qu'il ne faut pas réduire cette réforme à ce sujet. Hein. On a une réforme très importante pour mettre en place un système qui assure une solidarité entre tous les Français, les mêmes droits pour tous les Français, des avancées sociales importantes. C'est ce qui était porté depuis des années par la CFDT. Ensuite, il y a des points de désaccord. Il y a un accord sur le fait que le système doit être à l'équilibre. Ensuite, le Premier ministre l'a dit, on est ouvert au dialogue sur les modalités du retour à l'équilibre. Je pense que les Français comprendraient pas qu'on leur dise, on vous met en place un nouveau système avec des nouveaux droits, mais on vous dit pas comment ça sera
financé.
Laurent
Berger est très clair. Il dit, il faut retirer l'âge pivot du texte. Est-ce que c'est un préalable? En gros, il faut pas dire, on discute et si on trouve une solution, on la prendra peut-être, et sinon on appliquera l'âge pivot. Il vous dit de retirer le mot l'âge pivot.
Écoutez, s'il a d'autres propositions, le Premier ministre l'a dit, on prendra des propositions qui permettent d'arriver au même résultat.
La hausse des cotisations.
Non, pas celle-là. Vous voyez, je pense que celle-là, ça serait soit des pertes de pouvoir d'achat pour les Français, et je pense que là, ils ne seraient pas d'accord, soit effectivement des charges supplémentaires pour les entreprises, mais des propositions qui permettent de revenir à l'équilibre sans baisser les pensions, sans peser aussi sur la compétitivité des entreprises.
Donc pas de hausse de cotisation, pas aller prendre dans les régimes excédentaires. Alors quoi? Il reste l'âge pivot, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de discuter, mais en fait,
façon ou d'une autre. Bah, les Français ont bien en tête qu'on va devoir travailler plus longtemps, parce qu'on passe aujourd'hui plus de temps à la retraite, deux fois plus que dans les années 50. Donc il faut bien s'occuper de l'équilibre du système de retraite. Des propositions qui tournent autour de cette idée sont les bienvenues. Et évidemment, le Premier ministre les écoutera avec attention.
Tous les régimes spéciaux seront supprimés par votre réforme, les 42 régimes spéciaux.
Mais écoutez, quand on dit qu'on veut un système qui assure la solidarité entre tous les Français, ça veut dire qu'il n'y a plus de régime à part. Et je pense que ces régimes, ils ont eu leur légitimité à une époque. Aujourd'hui, quand on voit qu'on a deux retraités pour un actif dans les régimes spéciaux, qu'il y a donc 7,5 milliards de financement des autres Français. Je pense qu'on voit qu'on est arrivé un peu au bout d'un système et que c'est important qu'il y ait cette solidarité entre tous les Français et donc un régime unique.
Un régime unique, sauf avec des exceptions. Alors, il y a plein d'exceptions. Les policiers gardent leur régime spécial. Les routiers, vous l'avez confirmé, les routiers gardent leur régime spécial. En quoi votre réforme, elle est...
C'est pas ça.
Alors,
du tout.
Alors, je
les
vous
routiers...
cite, le congé de fin d'activité qui leur permet de partir à 57 ans sera maintenu.
Ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, on maintiendra ce congé de fin d'activité, qui est un régime conventionnel mis en place par les partenaires sociaux. Ça, tout le monde est libre de le faire. Hein. Mais effectivement, le régime général, assuré par la solidarité nationale, demain, il sera le même pour tous les Français.
L'entrée en vigueur de la réforme pour les cheminots à la génération 85, comme l'a annoncé Édouard Philippe la semaine dernière, est-ce que c'est négociable, ça?
On a fait une avancée très importante, hein, puisque tous ceux qui partent à la retraite avant 2037 resteront dans le système actuel. Il faut avoir en tête que c'est plus des trois quarts des conducteurs qui sont dans cette situation. Par exemple, sur les RER de la RATP, c'est 98% des conducteurs. Je le dis parce que les Français pourraient finir par ne pas comprendre pourquoi ils sont dans la galère, alors que 98% des conducteurs de RER, leur situation ne change pas. Donc c'est ce qu'on avait dit, qu'on est attentif à avoir des transitions longues. Ensuite, il y a des champs de discussion dans les entreprises pour ceux qui vont rentrer dans le nouveau système sur la façon dont on va maintenir...
Qui va rentrer dans le... En fait, Elisabeth Borne, c'est difficile à comprendre votre réforme. Et alors, quand on parle des cheminots, en réalité, pourquoi vous ne dites pas plus simplement que la réforme ne s'applique pas aux cheminots et ne s'appliquera que aux nouveaux entrants, en fait, ceux qui rentreront en 2022, la génération 85, vous l'abandonnez, parce que c'est ça, en fait, c'est la cause du grand-père pour les cheminots. On va essayons de clarifier les choses ce matin.
Parce qu'il y a une règle simple qui a été posée, c'est tous ceux qui sont à 17 ans du départ à la retraite ne sont pas concernés, c'est la génération 85 pour les cheminots. Je crois que les Français aspirent à de la justice. Donc, tous ceux qui sont à 17 ans, qu'ils soient dans ces régimes spéciaux ou dans le régime général, ne sont pas concernés par la réforme. C'est une avancée. avancée très importante, puisque, je vous dis, plus des trois quarts des conducteurs ne sont pas concernés et qu'il y a un champ de discussion dans les entreprises sur la façon dont on va garantir des pensions de haut niveau.
Donc vous êtes prêt à lâcher sur les cheminots beaucoup de choses, et notamment la clause du grand-père.
On est prêt à leur garantir leurs droits pour ceux qui rentreront, donc qui partiront à la retraite après 2037.
Merci beaucoup, Madame la Ministre, et belle journée à vous.
Merci.